Et bonjour les amis, bienvenue sur Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, troisième podcast depuis la reprise. Les chiffres sont délirants. Merci vraiment de me suivre. Je sais que vous partagez ce podcast parce que vraiment, j'ai une croissance d'écoute exponentielle. Donc je vous suis très reconnaissant. Malheureusement, je ne suis toujours pas intégré au classement Spotify. Voilà, de semaine en semaine, je les ai contactés, j'ai envoyé des messages pour leur dire voilà comment ça se fait avec les chiffres que je fais, que je sois pas intégré dans le podcast. Bon, je fais ouin ouin à chaque début de podcast, mais c'est pour vous le dire. Là, j'ai envoyé un message, on va voir ce qu'ils répondent. Alors, les amis, actualité brûlante, actualité incroyable, actualité sportive de folie. Hier soir, l'UFC Paris. Benoît Saint-Denis vient de vivre une deuxième défaite consécutive, donc il avait eu des problèmes contre Dustin Poirier. On attendait de voir ce que ça allait donner dans ce combat après les changements qu'il avait opérés pour voir un petit peu quels allaient être les changements, les conséquences sur son style de combat, sur sa capacité de combat, sur son niveau en fait en général. Et malheureusement, hier soir, le projet, le rêve Benoît Saint-Denis s'est quand même partiellement écroulé avec cette défaite très très violente contre Moïcano, un Brésilien qui a été qui fait partie de l'élite, hein. Je veux dire, aussi quand on est à très 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 haut niveau et qu'on ne fait pas de tri dans ses adversaires, surtout dans ces catégories qui sont extrêmement difficiles, les catégories 70 kilos, c'est là où vous avez tout le monde, vous exposez évidemment à la défaite. Alors, on va aborder des choses qui vont un petit peu on va aborder les choses qui fâchent. Je vais essayer d'être le plus partial, le plus juste possible. Et en même temps, il y a des choses que je dois vous dire, il y a des choses que je n'ai pas appréciées dans la communication de Benoît Saint-Denis récemment, que j'ai très très mal vécu, qu'une partie du public patriote a très très mal vécu. Et je crois que tout ça, si vous voulez mon avis, tout ça est quand même beaucoup une histoire de karma. Voilà, je pense que le karma a frappé hier soir parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choix qui ont été des mauvais choix, qui ont été des désaveux, qui ont été un peu une forme de parjure. Hein, et vous savez à quel point c'est quelque chose que je trouve horrible et que je déteste. Donc on va essayer d'être partial. On va aborder ça. Alors, il y a eu plusieurs actualités dans les sports de combat. Il y a eu aussi en boxe anglaise la défaite d'Anthony Joshua, qui était un des tauliers à très haut niveau, contre Daniel Dubois. Ça, j'en parlerai en second après, ou peut-être je l'aborderai au détour de, parce que bon, il y a un peu moins de choses à dire, mais c'est un peu moins intéressant aussi par rapport à nous en tant que Français, puisque ça, le combat de boxe anglaise se passait entre deux Anglais, deux citoyens britanniques, donc Anthony Joshua et Daniel Dubois. Donc ça nous concerne un peu moins. Je le réserve pour la fin du podcast et on va démarrer de suite par l'analyse, les conclusions que je tire de l'aventure de Benoît Saint-Denis à très très haut niveau dans l'UFC, parce que c'est quand même le très très haut niveau. Je veux dire, il n'y a pas de honte à perdre des combats à ce niveau-là, parce qu'on est vraiment face à des combattants qui sont la crème de la crème. Vous savez, il y a des combattants qui font le choix de rester dans des ligues mineures, qui ont vraiment beaucoup moins de niveau que l'UFC. L'UFC étant vraiment la crème de la crème. Du MMA, d'après ce que j'ai compris. Alors moi, j'y connais strictement rien en MMA, donc je vais vraiment rester sur des considérations minimes. Je parle en termes d'analyse. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à même de le faire. Moi, je fais pas partie de ces gens qui présument de leurs prérogatives et de leurs capacités. Je vous le dis d'entrée dans ce podcast, j'ai très très peu de culture en termes de MMA. Par contre, j'en ai beaucoup plus, et beaucoup plus de connaissances, et beaucoup plus d'aficion pour la boxe anglaise. Mais cependant, ça n'empêche pas une analyse, on va dire, sur le versant politique, sur la communication de Benoît Saint-Denis, qui est encore autre chose que le combat stricto sensu, d'accord. Ensuite, il y a des choses qui sont, il y a des informations qu'on a et qui sont indiscutables, c'est-à-dire que l'UFC est la ligue qui présente le meilleur niveau, ça je pense que personne ne le contestera, y compris les spécialistes du MMA, et vous avez vraiment l'UFC et les autres ligues. Ça n'enlève pas le mérite des combattants qui sont dans les autres ligues, mais ils ne peuvent pas présumer, ils ne peuvent pas, je pense, à mon avis, Ils ne peuvent pas se prévaloir de se comparer avec des gens qui combattent à l'UFC. Je pense vraiment que l'UFC présente un très très grand niveau. C'est quelque chose qui m'a été confirmé par des gens qui connaissent bien le combat. Et puis, il suffit de regarder. On a vraiment, pour le coup, du spectacle. On a vraiment. Ce n'est pas amateur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'amateurisme. Amateur au sens amateurisme, pas amateur au sens sportif. C'est vraiment très 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 professionnel. On le voit. On voit des champions charismatiques, on voit quand même le top niveau, même moi qui ai des yeux profanes, qui ne suis pas habitué à regarder du MMA, moi je suis ça de très très loin. Si vous voulez, il faut reconnaître que ça donne quand même autre chose que certains combats qu'on peut voir dans des fédérations beaucoup plus mineures et de bien moindre importance. Bon, alors plusieurs choses. Si vous voulez, on va revenir, voilà, on en a 5 minutes, il va falloir qu'on aborde les choses qui fâchent. Moi, je me suis partiellement mis de côté dans la grande énergie, dans la grande hype qui poussait Benoît Saint-Denis à partir du moment où il y a eu cette espèce de séquence qui était vraiment pas nécessaire, hein, où Benoît Saint-Denis a fait comme beaucoup de Français, ça on doit le dire, hein, il s'est dit je vais donner des gages à l'extrême gauche pour être tranquille. Bon, le mec, c'est un ancien force spéciale. Vous rappelez que j'ai fait un podcast pour en faire la promotion. Il représentait vraiment, parce que c'est ça en fait qu'il faut dire, Benoît Saint-Denis représentait vraiment quelque chose qui nous a donné du rêve dans une période où on est systématiquement humilié par notre propre gouvernement, notre propre État et la plupart de nos représentants, nos acteurs, nos sportifs, on va dire nos gestionnaires de l'information, nos pontes médiatiques, nos éditorialistes, nos politiciens nous humilient en permanence. Et c'est vrai que ça, c'est le grand mal français. On a envie de voir émerger des figures qui, si vous voulez, viennent nous représenter avec les honneurs et qui nous donnent cette fierté qu'on nous a confisquée d'être français. Voilà. Donc il ne s'agit pas. Enfin, je veux dire, Benoît Saint-Denis n'a jamais été un néo-nazi ou je ne sais pas quoi. Ça n'a jamais été un type d'extrême droite au sens où l'entend l'extrême gauche, c'est-à-dire un type raciste ou je sais pas quoi. Il n'y a jamais eu ça chez Benoît Saint-Denis. En revanche, je pense que c'est un très très grand patriote. Je pense que les délinquants, il a envie de les coller au mur et de les fusiller comme tous les gens normaux et comme l'intégralité de l'humanité, enfin comme ça fonctionne l'intégralité de l'humanité sauf en Europe marxiste, hein, si vous voulez. Donc si vous voulez, c'est un type absolument normal. Benoît Saint-Denis en France, c'est un facho. Dans n'importe quel lieu, au Brésil, en Argentine, en Serbie, c'est un mec du Parti socialiste. C'est un bon. Ah, d'accord, ah, ça va, il parle avec des noirs. Bon, mais c'est un mec de gauche. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Non, j'exagère, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est, parce qu'en plus, même l'extrême droite en Argentine et l'extrême droite au Brésil n'est même pas aussi caricatural que. Bon, après, je prends Argentine et Brésil. C'est vrai que ça a été le refuge de certains Allemands à une certaine période de l'histoire. Bref, non, mais ce que je veux dire, c'est que Benoît Saint-Denis, c'est absolument pas un facho au sens où l'extrême gauche l'entend, c'est-à-dire un skinhead, quoi. T'sais, il te présente un Serge Ayoub, pratiquement. Bon, faut pas déconner. Benoît Saint-Denis, c'est un militaire. S'il a porté les couleurs, qu'il a fait ce qu'il a fait, qu'il s'est dirigé vers les sports de combat, c'est qu'il y a de la testo. C'est un mec qui a de la testo. Bon, et quand t'as de la testo, t'es pas d'extrême gauche. Voilà. Si tu veux, quand t'as de la testo, ça aussi, c'est les choix politiques sont liés à la chimie, hein, à la chimie du corps. Il y a vraiment des mecs, quand ils se mettent à travailler, à soulever des trucs et tout, leur corps se met à produire plus de testo, ils changent de bord politique. Ils en peuvent plus de voir des. Il y a des trucs qu'ils acceptaient parce qu'en fait, ils avaient rien dans les couilles. Ils avaient du bouillon cube. Ils avaient du lait sucré fermenté, là. Du lait sucré. Non, comment on dit? C'est quoi? Du lait sucré, non, c'est ça. Du lait. Ouais, du lait épais, là. Du régilé. Ils ont du régilé dans les burnes. Et en fait, quand tes gonades commencent à envoyer de la testostérone dans ton sang, il y a des trucs que tu supportes plus. Tu sais, c'est comme les bodybuilders, là, qui font des roid rage. Les bodybuilders, les boxeurs, les catcheurs. Des roid rage, je crois que ça s'appelle, je sais plus, j'ai un accent de merde en anglais, c'est-à-dire qu'en fait les types, eh ben à cause de la testostérone qu'ils ont pris via les stéroïdes qui sont injectés dans le sang, ils ont des putains de montées en pression, ils supportent plus rien, ils tuent leur chien, ils tabassent leur meuf, ils prennent l'autoroute à contresens comme les joueurs de football américain. Enfin bref, si vous voulez, ils ont des montées de colère qui sont inarrêtables, on appelle ça, ce phénomène est appelé le roid rage. Et moi je pense que à partir du moment où tu as une pratique de sport intense, tu n'es plus de gauche, tu ne peux plus être de gauche. Il faut vraiment être un prof, le cul posé sur une chaise, et encore de plus en plus de profs, parce que j'en ai dans mon public, en ont plein le cul et de la gauche, et ils sont en train de turn, chemise noire. Avantipopolo à la riscosa. Non, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Et car al sol con la camisa nueva. Aujourd'hui, les enfants, c'est cours d'espagnol. Asseyez-vous, ouvrez vos classeurs. Et avant de démarrer le cours, nous allons nous relever à nouveau et chanter l'hymne à la phalange pour rendre hommage à Francisco Franco, ce héros de l'Espagne éternelle. Allez, levez-vous, les enfants! Et là, t'as l'hymne qui commence. Et les gosses, allez, sortez vos chemises bleues. Enfilez vos chemises bleues, les enfants. Levez le bras, allez, on lève le bras. Et on se tourne vers le portrait de Franco, qui est accroché là, sur le côté de la classe. On tend le bras vers lui et on chante. On chante une chanson fasciste pour dire à Franco qu'il nous manque. Reviens, Franco, reviens. Franco, au secours, au secours. Et oui, parce que les cours d'espagnol, excuse-moi, je fais une digression, mais les cours d'espagnol, c'est gauchisme.com, quoi. C'est Mafalda, oui, la dictature en Amérique du Sud, Pinochet, il est méchant, gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagn devient des profs d'extrême droite. Ça devient des franquistes. Ils arrivent, ils ont une calvasse, une moustache, hein. Ils ont des démarches de garde civile. Ils arrivent, allez, levez-vous, allez, on va chanter l'hymne de la phalange. Mettez vos chemises bleues. C'est-à-dire qu'en fait, t'as une blouse blanche pour la chimie, pour la physique chimie, et t'as une blouse bleue pour le cours d'espagnol. Et parce que la chemise bleue, c'était l'uniforme des fascistes, quoi. Des phalangistes, en tout cas. Bon, qui était inspiration fasciste. Bref, je rigole, évidemment. Donc, je sais plus ce que je racontais. Si vous voulez, la testo dans le corps fait que vous êtes de droite. Donc, évidemment, Benoît Saint-Denis, il se fait parachuter par Charlie Zéro sur le point GPS 555 parallèle 48, pour aller déglinguer des djihadistes, si tu veux. Tu vas pas me raconter que quand il rentre à la maison, il dit « Oh tiens, Jean-Luc Mélenchon a vachement raison. Il faut vraiment que les Traoré reçoivent une bourse de la rentrée, là, une bourse de rentrée des écoles de 6000 euros par personne. » Non, évidemment, c'est un type conservateur. Mais vous savez, il y a plein d'athlètes extra-européens qui sont des conservateurs finis. Si tu vas demander à Francis Ngannou ce qu'il pense du mariage pour tous, ou que tu vas demander à Imavov ce qu'il pense de l'adoption des homosexuels, si tu veux, t'auras une réponse de nazi. Voilà. Et pourtant, il y en a un, c'est un bantou, et l'autre, c'est un tchétchène, si tu veux. Donc, c'est pas parce qu'ils sont extra-européens, enfin, les tchétchènes sont eurasiens, on va dire, mais c'est pas parce qu'ils sont extra-européens qui sont d'extrême gauche, en fait. Ça aussi, il faut arrêter avec ce truc-là. Bon, bref. Donc, si vous voulez, Benoît Saint-Denis, évidemment, évidemment qu'à la base, avant d'avoir, si vous voulez, la pression journalistique sur les épaules, c'était un giga mec de droite. C'était un giga conservateur. C'est un énorme cato. Il fait des références à la chevalerie. Bon, la chevalerie, est-ce que c'est un truc d'extrême gauche? Est-ce que les chevaliers, ils ont pris le bateau pour aller à Antioche pour distribuer des RSA à toutes les babouches qu'ils rencontraient? Non. Non, ils sont allés reprendre le tombeau du Christ avec des gros chants en occitan et en picard et en normand, si tu veux. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, si vous voulez, Benoît Saint-Denis, vous ne me ferez pas croire que il était d'extrême gauche avant d'aller chez Libération. Bref. Donc, si vous voulez, ce mec arrive. Évidemment, le public français qui se fait tout le temps humilier par les politiques, qui se fait humilier à la cérémonie des JO. Il y a plein de trucs, si vous voulez, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que moi, maintenant, je vis à l'étranger. Je vois, si vous voulez, la gauche espagnole, c'est un cancer comme toutes les gauches du monde. Mais la gauche espagnole n'humilie pas les Espagnols en permanence. Ils ne sont pas dans l'humiliation des Espagnols en permanence. Typiquement, il y a le gouvernement, je ne sais plus de quel pays d'Amérique du Sud, qui a demandé à Pedro Sanchez, qui pourtant est un gros socialiste, de s'excuser pour... ils ont demandé au roi d'Espagne, à Pedro Sanchez, de s'excuser pour la conquête de l'Amérique. Bon, mais les mecs ne sont pas excusés. Il faut arrêter. Alors qu'à l'époque, si vous voulez, Chirac avait été à deux doigts de le faire, en fait. Ou il l'avait fait, partiellement, je crois. Il s'était excusé. Voilà, pardon d'avoir fait des routes. Bon, si vous voulez, le... Bon, même si, évidemment, la guerre d'Algérie a eu son lot de saleté de parts et d'autres, hein, faut pas non plus. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas à s'excuser, c'est l'histoire, c'est comme ça. Bon. Et si vous voulez, en France, il y a quand même cette volonté des élites, entre guillemets, médiatiques... des gens qui ont de la lumière sur eux, d'humilier la France, de à chaque fois de faire des courbettes devant la gauche et de renoncer à des choses qui pourtant devraient être portées fièrement, tu vois. Bon, et si vous voulez, Benoît Saint-Denis, contre toute attente, à un moment, il était extrêmement supporté par un public qui n'était pas non plus un public de nazis, faut arrêter avec ça. C'était un public de patriotes. C'était tout simplement des Français, autochtones ou pas, qui voyaient en Benoît Saint-Denis le retour d'une expression de la virilité à la française. Il y avait le côté Saint-Denis. Donc Saint-Denis, c'est Montjoie Saint-Denis, c'est le cri de guerre des chevaliers français. On avait l'impression d'un signe, si vous voulez. On avait l'impression que Dieu s'adresse aux gens et dit, écoutez, on vous humilie toute la journée, on va vous donner un espèce de héros qui soit pratiquement une caricature de héros français. Il a la gueule, là, c'est une frogne. Sa tête, c'est une frogne. On l'imagine sur un frison en train de faire des charges à Montgisard, si tu veux. Le mec déboule avec des drapeaux français. Bon, c'est dommage, c'est le drapeau de la République, mais c'est un militaire, donc il porte le drapeau français en rapport à tous les, je pense, à tous les gens respectables qui sont tombés pour ce drapeau. Parce que qu'on le veuille ou non, même si c'est un drapeau républicain, il y a des braves poilus qui étaient catholiques qui sont tombés pour ce drapeau. Donc, il ne faut pas cracher sur ce drapeau. Ce n'est pas mon drapeau, personnellement, mon drapeau, il a des fleurs de lys, voilà. C'est le drapeau bleu à fleur de lys, mais je ne crache pas sur le drapeau bleu-blanc-rouge parce que je sais qu'il y a eu des charges de poilus avec ce drapeau en première ligne, si vous voulez. Donc on ne peut pas. Si un jour on rétablit la monarchie, pratiquement il faudrait garder le bleu-blanc-rouge et mettre une fleur de lys au milieu ou une référence au catholicisme. Comme ça, on n'efface pas le passé républicain parce que ce passé républicain a quand même connu deux guerres mondiales où il y a de braves Français qui sont morts. Pour le drapeau. Donc, si vous voulez, ces questions de drapeau, pour moi, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais il a le drapeau de la République, on s'en branle de ça. C'est le drapeau de la France. Et ce que ça représente, j'imagine, pour lui, c'est l'engagement que ce drapeau a suscité chez des générations et des générations de Français qui ont consenti à des sacrifices monumentaux. Donc, si vous voulez, pour permettre à Thomas Joly de blasphémer à la télé française en direct. Bon, comme quoi, des fois, il aurait mieux valu rester dans la tranchée, laisser les Allemands gagner, et peut-être qu'on aurait une autre Europe. Je parle de la Première Guerre mondiale, hein. Pas la deuxième, attention. Peut-être que finalement, les Prussiens... vous me direz, l'Allemagne est aussi dégénérée que la France. Donc, bon, bref. Je crois que c'est une maladie très européenne, en réalité. Bref. Et donc, si vous voulez, il représentait ça. Il représentait le Français d'avant, la virilité guerrière. Il y avait le côté, quand il parlait, on sentait qu'il n'était pas fait pour ça, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment 0,0% de latinité, de négritude et de judaïsme dans ses cordes vocales, si vous voulez. Ce n'est pas un méditerranéen, voilà. Moi, je suis un très très bon tchatcheur, parce que, voilà, c'est-à-dire, voilà, le méditerranéen, à l'oral, il est bon parce que, voilà, dans ses ancêtres, eh bien, voilà, il y a des séfarades, il y a des arabes, voilà. Donc, si vous voulez, le mec du Nord... Le mec du Nord n'est pas un très grand tchatcheur, voilà. L'oralité des gens du Nord, elle est différente. L'oralité des gens du Nord, c'est Gabin. C'est des trucs très posés. On n'est pas dans l'emphase. On n'est pas dans la construction lyrique comme le font les Latins, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Grecs. Il n'y a pas ça. Là, il y a plus le côté force tranquille. Dans le parler du Nord, on est beaucoup plus dans des trucs, on est sur le... C'est sourd à l'intérieur. Il pleut dehors, tu peux pas faire des grosses phrases d'italien. Tu vois, on n'imagine pas un mec à Lille qui sort de la mine, la couverture de charbon, et qui fait Oh, ma! Che bella giornata oggi! Sono nero, cosa del carbone! Bon, on n'imagine pas ça. Le ch'ti, quand il sort de la mine, bah, j'ai. Hey, j'allais boire une bière! Voilà, bon, voilà. Si vous voulez, les mots sont économisés dans le Nord. Donc, vous n'avez pas ces espèces de grands prêtres narbonoïdes, comme je le suis. Vous n'avez pas le gourou narbonoïde, papacitesque. Le mec du Nord, il y a de grands orateurs qui viennent du Nord, c'est pas la question, mais en général, si vous voulez, le mec du Nord, il est beaucoup plus dans un truc intériorisé, mais parce que c'est la culture du Nord qui veut ça. Et ça donne des trucs géniaux, hein. Ça donne Gabin, ça donne des mecs comme ça, quoi. Donc, ça donne des comment ça s'appelle, des... comment il s'appelle, putain, cet acteur incroyable aussi, qui était un type du Nord, putain, bon, ça me reviendra. Et c'est un acteur de l'époque aussi, mais ça me reviendra. Et c'est des mecs qui avaient un peu ce truc très intériorisé, très très bon, quoi, voilà. Et donc, voilà, donc il y avait ce côté très maladroit, fais-vous le prouver, t'as pas, et t'as... Bon, mais là, on a l'impression que là... Il était en prison chez les Turcs, là, comme dans Robin des Bois, là, au début, là. Il s'est fait capturer par les Mamelouks aux croisades. Il était dans les geôles des Mamelouks. Et puis, il est sorti, il s'est enfui avec l'autre, là, avec... Putain, il est génial, ce film. Putain. Avec Morgan Freeman. Et il allait dans la forêt de Sherwood. Ouais, shérif, le shérifant, tu vas voir. Moi, je vais voler aux riches pour donner aux pauvres et je vais le prouver étape par étape. Bon, il y avait un côté un peu comme ça, renégat, chevalier renégat, pas très à l'aise à l'oral. Il était extrêmement attendrissant. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir en lui. Et à tel point, je le dis au passage parce qu'il y a peu de gens qui le sachent et ça va me permettre d'aborder une autre question qui est celle de l'argent. En fait, il faut savoir que le Raptor, quand il a pris le parti de sponsoriser Benoît Saint-Denis, il a fait quelque chose qui était assez inédit dans le MMA, c'est qu'il a manifesté énormément de respect à Benoît Saint-Denis. Il a fait un énorme risque parce que Benoît Saint-Denis en était au début de sa hype et il lui a proposé des financements et des sponsors très 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 hauts par rapport à ce qui se pratique dans le MMA. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a traité de manière professionnelle. Le Raptor, quand il a approché Benoît Saint-Denis, il lui a fait des propositions à l'américaine. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il a extrêmement bien traité Benoît Saint-Denis comme un athlète professionnel. Et si vous voulez, dans le MMA français, il y a très très peu d'argent. Ça, faut bien le comprendre. Et le Raptor, en fait, il a foutu le bordel quand il a donné ce qu'il a donné à Benoît Saint-Denis parce que ça lui a fait, je pense, perdre la tête de gagner autant d'argent, parce que je vous le dis, dans le MMA français, il y a peu d'argent qui circule. Hein. C'est vraiment des sponsors, si vous saviez les prix. Alors, évidemment, si on compare par rapport aux combattants américains, parce que le marché n'est pas le même et tout, donc voilà. Mais je veux dire, pour le marché français, le Raptor avait manifesté énormément de respect. Moi, je vous le dis à Benoît Saint-Denis, parce qu'il l'a sponsorisé très très tôt, avec de belles sommes. Voilà. Pour aider Benoît Saint-Denis à se professionnaliser, parce que en fait, il faut comprendre un truc. Moi, quand je boxais en boxe anglaise, donc moi j'étais un amateur, je voyais les professionnels qui avaient des très très bons niveaux. Je vous avais parlé de Doudou Ngumbu qui s'entraînait dans ma salle et qui faisait régulièrement des sparring et qui m'a aidé à beaucoup beaucoup progresser parce que c'était un boxeur exceptionnel. Bon, mais c'était un mec, il était obligé de travailler à côté parce que les bourses qu'il arrivait à obtenir était pas mirobolante et donc il avait énormément de mérite comme beaucoup d'autres boxeurs français. Par exemple, je pense à Stéphane Blais qui a transité par ma salle. C'est un mec, il avait un niveau européen et Doudou avait un niveau mondial et c'était des mecs qui étaient obligés de bosser à côté. Parce qu'en fait, les combats de boxe leur rapportaient, mais pas non plus, il faut pas croire que c'est des trucs qui leur rapportent comme aux États-Unis des 1000 et des 100. Et donc, si vous voulez, le Raptor à ce moment-là, il a fait un pari, c'est de dire, je te donne beaucoup d'argent pour que tu te professionnalises, pour que tu deviennes un meilleur combattant. Il a pensé à l'américaine, si vous voulez. Et ce qui s'est passé, je pense, hein, parce qu'attention, tout ça. Alors moi, il y a beaucoup de gens qui parlent en général, qui parlent sur moi et qui expliquent des trucs dont ils ne sont pas au courant et qui disent ça s'est passé comme ci, que ça s'est pas passé comme ça. Donc je ne veux pas faire les mêmes fautes avec quelqu'un d'autre que moi. Donc tout ce que je vous dis, c'est des projections, sauf sur l'aspect le Raptor, sur le sponsoring du Raptor. Le reste, ce qui s'est passé entre Benoît Saint-Denis et son entraîneur. Moi, je ne suis pas au courant, donc je fais des spéculations. Je veux que vous reteniez que ce que je vais vous dire à partir de maintenant, ce sont des spéculations et que c'est en aucun cas la vérité. C'est ce que j'imagine qui s'est passé. D'accord? C'est un mélange d'intuition et de bruit de couloir. Voilà, pour que ce soit très très clair. Je déteste les gens qui extrapolent sur moi, donc je ne vais pas le faire sur les autres. Donc je vous préviens que peut-être que dans ce que je dis, il y a des erreurs. Mais ce que je pense, voilà, mon intuition, c'est qu'en fait, cette arrivée d'argent dans le camp, entre guillemets, Benoît Saint-Denis, a créé des problèmes, parce que vous savez, l'argent est un révélateur de comportement. Moi, j'ai vu des types et des femmes devenir complètement fous à cause de l'argent, devenir complètement fous, devenir d'autres personnes à cause de l'argent. Et Dieu sait que dans ce milieu d'influenceurs, il y a des mecs qui ont pété des câbles quand l'argent a commencé à arriver, qui sont devenus fous et que ça a complètement transformé. Donc, si vous voulez, j'en ai connu un notamment qui était vraiment sur les questions d'argent, qui était fou, quoi, et qui a fait n'importe quoi. Et mon ancien éditeur chez Ring faisait partie de ces gens-là. Hein. C'est un mec qui avait un gros, 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 gros problème avec l'argent. Et ça lui a joué énormément de tours, d'ailleurs. Et même ça lui a fait tout perdre. Donc, si vous voulez, l'argent, c'est le diable. Hein. Donc, l'argent est, si tout le monde est sain, quand vous amenez de l'argent dans un milieu où tout le monde est sain, ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème. Quand vous amenez de l'argent dans un milieu où les gens sont des clochards mentaux, où tout le monde essaie de grappiller, ça fout un bordel, là le diable a gagné, hein, ça fout un bordel monumental. Donc si vous voulez, cet investissement à l'américaine qu'a fait le Raptor, je pense, hein, encore une fois, je pense, a foutu le bordel entre l'entraîneur de Benoît Saint-Denis et Benoît Saint-Denis. Parce que l'entraîneur de Benoît Saint-Denis, Daniel Vorin, qui est son entraîneur historique, qui l'avait amené à très très haut niveau, l'a fait gratuitement. Et ça, c'est quelque chose de très très répandu en France. Je vous renvoie vers l'émission qu'avait fait Cyril Diabaté justement avec Daniel Morin, où il parlait de la condition des coachs. C'est quelque chose dans les sports de combat qui est vrai. Vous avez énormément de coachs qui font un investissement monumental sur des boxeurs. sans jamais avoir de rétribution, même des fois de rétribution orale. C'est-à-dire qu'un boxeur prend pour acquis le fait que son entraîneur se dévoue pour lui, l'amène le week-end boxer. D'accord? Là, je parle en termes de boxe anglaise, mais dans les MMA, c'est pareil. Soit des rétributions financières. Moi, je vais vous dire, alors j'ai fait du bénévolat dans mon club parce que je ne suis pas un entraîneur professionnel, donc j'ai fait du bénévolat, j'ai entraîné plein de gamins, je l'ai fait pendant des années, je me suis régalé à le faire parce que j'aime la pédagogie, j'aime la transmission. Donc, moi, pas de problème. Moi, je venais, et puis on m'offrait la licence, donc super. Mais si vous voulez, il y a des types, c'est leur métier d'être entraîneur. Et ils entraînent des mecs pour les amener à très, très, très haut niveau. Daniel Warren a amené Benoît Saint-Denis à très, très, très haut niveau. D'accord? Fernand Lopez, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, avec toutes les casseroles qu'il a au cul, il a réalisé des choses extraordinaires avec des athlètes. Qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou pas à Cédric Doumbé, il a pris Imavov, il a amené en UFC à un niveau monumental. Il a pris Cyril Gane, il a amené à un niveau monumental en UFC. Il a pris des athlètes, il les a amenés à être des types crédibles en UFC. Qu'on le veuille ou non. Voilà, qu'on soit content ou pas content de ce qu'il fait, je sais qu'il est très très décrié par une certaine partie du MMA, mais qu'on le veuille ou non, les résultats sont là. Voilà. Donc si vous voulez, vous avez des types qui sont des entraîneurs professionnels et c'est normal qu'ils se fassent payer. Et il y en a d'autres, c'est des entraîneurs professionnels, ils ne se font pas payer. C'était le cas, je crois, de l'entraîneur de Benoît Saint-Denis. Et donc, ça a foutu le bordel parce que Benoît Saint-Denis, en accédant à la notoriété, a accédé à l'argent. Et là, il n'y a pas eu proposition de faire croquer l'entraîneur. Parce qu'à un moment, il y a eu manque de lucidité. Mais justement, en fait, c'est le moment où Dieu t'envoie de l'argent. Et c'est le moment où il t'observe, il regarde ce que tu vas faire avec cet argent. Si tu fais le mongol, il va t'amener à ta perte parce que tu n'as pas compris. L'argent est un moyen, ce n'est pas une fin. L'argent est un outil pour gagner plus d'argent, qui est un outil pour gagner de la liberté, pour faire ce que tu aimes. L'argent n'est pas une fin en soi. Si tu es focalisé sur l'argent et non pas sur ce que peut t'amener de positif et de noble l'argent, l'argent va t'amener à ta perte. L'argent va t'amener à l'argent va t'amener à connaître des catastrophes monumentales. Ce que tu prenais pour un don du ciel, qui en était un à la base, ce que tu en as fait par manque de lucidité, par manque de cœur chrétien, te conduit à ta ruine. Et si vous voulez, à un moment, il fallait être équitable. Le Christ, il est équitable. Le Christ, il y a du pain, il y a du vin. C'est pour ça qu'il est connu. La scène, c'est un partage. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même, en partie, Dieu incarné. Dieu fait homme. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le truc principal de Jésus? C'est-à-dire que son dernier acte avant de mourir, outre la souffrance, son dernier acte outre la passion, c'est le partage. Tenez ceci. Donc, il donne du pain, il donne du vin à ses compagnons. C'est un repas. Jésus-Christ, finalement, parce que là je le dis de manière très très noble, de manière biblique, mais en fait la dernière chose que fait le Christ avant de mourir, c'est un repas avec les potes. C'est une bonne vieille ripaille de mecs sympas en fait. Et donc il donne, c'est le don, il reçoit, il donne si vous voulez. Et c'est une instruction monumentale. Le repas, le festin, si on parle, si l'argent était un festin, il n'est que plus délicieux et que plus agréable si ce festin est partagé. Est-ce que j'ai un estomac extensible pour manger 2 kilos de pain? Non. Donc je vais encore plus en profiter. Et si je le garde pour plus tard, il sera rance. Je vais encore plus en profiter si je donne le pain aux compagnons. Voilà. Et si vous voulez, l'argent qui est arrivé, les sommes qui sont arrivées, auraient dû être partagées avec les compagnons. Les compagnons, c'est qui? C'est Daniel Warren. C'est les types qui ont toujours été là pour lui sans jamais rien demander. C'est ça la véritable amitié. Si vous vous demandez qui est mon véritable ami, qui est désintéressé vis-à-vis de moi, regardez qui a toujours été là sans rétribution, qui n'a pas intérêt à être là et qui est quand même là. Voilà. Posez-vous la question. Vos parents, donc ça c'est de l'amour pur. Ta mère, elle t'a porté, elle t'a élevé, elle est toujours là, même si t'as chié dans ton lit quand t'étais bébé, même si tu l'as déçu, même si t'as fait de la merde, elle est toujours là. Bon, après, il y a des fois où tu fais tellement de la merde qu'au bout d'un moment, même ta mère, elle en peut plus. Mais c'est très très rare qu'une mère décroche. Vous avez des potes, ils ont toujours été là. Quand ça allait pas, quand ça allait, ils ont toujours été là. Et c'est très très rare, c'est très précieux ça. Moi, j'ai la chance d'avoir des copains. Ils étaient là quand j'étais déménageur. Ils sont là quand ça marche bien pour moi, que je suis aujourd'hui écrivain et auteur de BD. Donc, les amis, ce sont les seules personnes les vrais amis, pardon, ce sont les seules personnes qui sont là sans avoir un intérêt pécuniaire à être là. Et Daniel Warren a été le. Alors, attention, tout le mérite ne revient pas qu'à Daniel Warren. Benoît Saint-Denis a énormément de mérite parce que c'est lui qui monte sur le ring. ou sur l'octogone, pardon, c'est lui qui met sa santé en jeu, c'est lui qui fait les entraînements, c'est lui qui transpire, donc il a beaucoup de mérite, si vous voulez. Mais il est entouré par des gens valables. J'avais discuté à l'époque avec son manager, qui est un type extrêmement sympathique, Guillaume Pelletier, très très sympa, on avait eu un échange cordial, un mec qui m'avait paru très très sain. Il était bien entouré, il était bien entouré. Alors, l'argent est arrivé, et au lieu de réfléchir à l'américaine, c'est-à-dire je vais investir cet argent dans une structure, ou en tout cas, je vais investir sur moi-même pour devenir encore plus performant, il y a eu des choix qui ont été complètement contre-intuitifs. Virer son entraîneur, aller dans une salle. Alors, ce que dit la rumeur, donc attention, ça reste de la rumeur, le commérage est un péché, donc je vous demande de prendre cette information avec des pincettes. Ce que dit la rumeur, c'est que sa compagne a une emprise assez conséquente sur ses choix de carrière, et elle lui a dit, non, non, tu vas t'entraîner à Bayonne, parce qu'à Bayonne, on est bien, bon, voilà. Le problème, c'est que le mec est allé dans un gymnase municipal. Il est allé à Saifit. Le prof de pied-point qui lui donne des conseils, bon, sauf en match, visiblement, le prof de pied-point, c'est Kiki de la salle, si vous voulez. Vous savez, les Régis, à l'époque, qui avaient un trousseau de clés, avec un par-dessus, avec un survêt mairie de Toulouse. Ou stade municipal. Voilà. Mais c'est des mecs comme ça, en fait, qui lui font le pied-point. C'est des mecs comme ça. C'est des types qui apprennent à des amateurs à faire gauche-droite devant un miroir. Donc, si vous voulez, il y a un énorme problème. Les Américains, ils réfléchissent à l'américaine. Enfin, beaucoup même d'athlètes, hein, réfléchissent, même des athlètes qui ne sont pas américains, ils réfléchissent, ils se disent, si je veux être professionnel, il faut que mon entraînement soit professionnel. Si je veux atteindre tel but, il faut que je monte mes standards. On est encore sur les standards, je vous renvoie vers les travaux et les conseils du Raptor où le standard est central. Si je veux augmenter mes standards, je dois, enfin, si je veux, pardon, augmenter mes standards de combat, je dois augmenter mes standards d'entraînement. Si je veux accéder à tel standard, à tel niveau, à l'UFC, c'est pas pareil de s'entraîner pour le PFL que de s'entraîner pour l'UFC. Voilà. Tu peux pas t'entraîner pour l'UFC en restant dans un gymnase au Pays Basque où tu peux pas te payer des. Vous savez, Martin Bacolé, il est né au Congo. Martin Bacolé, donc poids lourd extrêmement prometteur, qui a mis une claquasse à un espèce d'Afro-Américain MTV insupportable, de gang, qui s'est pointé avec un grills à la pesée. Bon, mais l'autre, il a mis des tartines, ça a été vite réglé. Si vous voulez, pardon, excusez-moi, Martin Bacolé, il vient de la RDC. La RDC, c'est un pays qui est niché au centre de l'Afrique, en fait. C'est le centre des Bantous, quoi. C'est très, très, très loin du premier centre de formation efficace pour faire un boxeur professionnel. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, Martin Bacolé? Dans le silence, il est parti en Écosse et il allait se taper tous les sparrings du circuit. Il a été le sparring de Fury, il a fait des sparrings avec Dubois, il a fait des sparrings avec des poids lourds qu'il n'aurait pas pu trouver en Afrique en restant au Congo. Pourtant, il aurait pu avoir la tentation de rester au Congo, bouffer du kwanga, se régaler, voir des culs toute la journée, écouter du Kofi Olomidé dans sa salle où il aurait été traité comme un roi. Non, il est parti, il est allé en Écosse, il a fait des sparrings avec des boxeurs qui l'ont fait vaciller sur ses bases et qui n'ont fait que l'aider à augmenter son niveau. Pareil pour Francis Ngannou. Il est né au Cameroun. S'il était resté au Cameroun dans sa salle, enfin, il n'en avait pas d'ailleurs de salle, je crois, là-bas où il faisait de l'anglaise, il faisait pas du MMA, vous n'en auriez jamais entendu parler. Ce sont des types qui sont venus se professionnaliser dans des endroits bien précis, parce qu'en fait, il y a eu de la lucidité. Il y a eu des choix de carrière qui ont été des choix de carrière qui n'étaient pas tournés vers le confort ou vers la vie d'une femme, en fait. Donc, oui, la gonzesse de Martin Bacolet, elle a dû râler quand il est parti en Écosse, parce que les Congolaises, quand l'argent commence à rentrer, elles préfèrent être sur un canapé. Dans le quartier le plus riche de Kinshasa, plutôt que d'aller se peler les couilles à Édimbourg sous la pluie. Évidemment. Évidemment que, je sais pas comment s'appelle sa femme congolaise, mais ça doit finir par Tine à la fin. Fantine, Églantine, ce que tu veux, mon ex-femme, elle s'appelait Merveille. Les Congolais s'appellent souvent, elles ont des noms comme ça. Donc, sans doute que Désirée, Merveille Désirée, elle aurait préféré rester au Congo. Mais il faut aller gagner l'argent. Donc, si vous voulez, Martin Bacolet est parti en Écosse et c'est très très lucide et très courageux. Et aujourd'hui, ben, il met des uppercuts à des athlètes américains de haut niveau et il fait rêver tout le monde et il régale tout le monde. Et après, il y a des Jésus sur le ring, Jésus! Et je veux remercier en tout premier lieu Jésus-Christ de Nazareth. Oui, espèce de gros tchad noir, espèce de gros tchad tout marron. Eh bien, t'as raison, putain de merde, t'as raison d'aller exposer Jésus comme ça à la face du monde là. avec tous ces mondialistes de merde satanites. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand il y a un noir de 2 mètres qui monte sur le ring et qui lâche des Jésus-Christ de Nazareth? Mais ça, ça régale, ça régale. Et d'ailleurs, on va arriver sur Moïcano tout à l'heure, on va en parler parce que Moïcano, il a régalé. Bon, bref, on met ça de côté. Il faut que je finisse là, excuse-moi, je pars en couille. Putain, Benoît Saint-Denis, il est resté au gymnase municipal, quand. Oh, Benoît, t'es resté au gymnase municipal! Avec Kiki, ben attends, je vais t'ouvrir la salle. Tu sais, tu boxes, tu t'entraînes, et il y a des mecs en survêt qui te regardent. Et en fait, les mecs, leur boulot, c'est passer la tondeuse sur le stade municipal du BAB, quoi. Le BAB, c'est un concept que connaissent les mecs du sud-ouest, c'est Bayonne, Anglette, Biarritz. C'est-à-dire qu'en fait, c'était trois petites villes qui sont devenues une seule et même grosse ville, en réalité, dans laquelle il est impossible de circuler, parce que beaucoup d'Hollandais et de Juifs séfarades ont acheté des maisons basques et sont venus vivre au Pays Basque. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu peux plus circuler dans le BAB parce qu'il y a énormément de personnes qui sont venues y vivre, qui sont pas de là, et qui en fait, ont mis la hype sur Bayonne, et en fait, maintenant, c'est invivable. Alors, il y a eu l'effet, j'ai un copain, je le salue, Olivier.L, je le salue, mon petit Olivier, qui lui, par contre, est très, très branché MMA, qui a connu, à l'époque, les combattants qui allaient dans la salle de Benoît Saint-Denis, donc Stéphane Susperigui, qui en fait est un combattant du MMA qui allait au Glory et tout, bon, et lui-même c'est un pratiquant assidu de boxe pied-point, de boxe taille, il s'y connaît énormément, et lui me disait, mais la salle où va Benoît Saint-Denis, c'est la salle municipale, quoi. Ça y fit à Bayonne, c'est comme si Martin Bacolé il allait s'entraîner à Olympique, même pas Kinshasa. Il y a le côté Lubumbashi Olympique Club Boxing. Bon, voilà, non, en fait, non. Donc, si vous voulez, c'est pas du mépris envers l'Afrique, c'est pas ça, mais si vous voulez, à très très haut niveau, il faut aller chez les Anglo-Saxons, il faut aller chez les Russes, il faut aller chez les Américains. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'a fait d'ailleurs notre Baptiste Cheval National, qui est devenu champion de boxe de New York. Le titre à la classe, quand même. Il avait un drapeau de la Normandie pour. Et d'ailleurs, voilà, Baptiste Cheval, si vous voulez, c'est un type, bon, ben, en fait, le succès commence à arriver, la hype est là. Alors, pas au niveau de Benoît Saint-Denis, mais il a pas baissé son froc. Il continue à afficher ostensiblement son catholicisme et son amour pour la France. Donc, si vous voulez, voilà, il y a des types qui font des choix comme ça. Et malheureusement, Benoît Saint-Denis, ben, ça a été Saïfit à Bayonne, dans la salle qui est tenue par Régis de la mairie de Bayonne. Voilà. Mairie de Bayonne, il y a. Ou mairie de Biarritz, ou je crois que c'est Biarritz, ou je sais plus où. Il y a mairie du BAB, là, tu vois, sur les trucs. Donc c'est une catastrophe, en fait. Son entraîneur, là, de pied-point, je le connais pas, mais ça a été une catastrophe. Les conseils qu'il lui disait, là, les conseils qu'il lui donnait, ou les conseils qu'il lui donnait pas plutôt sur le bord du ring. Là, vraiment, on était dans l'amateurisme à la française le plus pur, en fait. On était vraiment à l'amateurisme à la française le plus pur. Et donc, entre-temps, il s'est passé quelque chose de terrible que je voulais aborder, c'est que Benoît Saint-Denis, l'argent arrive, la fame arrive, il se dit « Oulala, je suis officiel, maintenant je suis officiel, voilà ». Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Libération, donc pour rappel, Libération est un journal qui a fait l'apologie de la pédophilie pendant pratiquement 30 ans, avec des articles redondants. En fait, c'était un lobby pédophile, hein. Libération a pratiquement été créé pour ça, hein. C'est un journal d'extrême-gauche, anarcho-pédophile, qui a lutté pendant très 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 longtemps pour en fait qu'on légalise la pédophilie avec des tribunes, avec des petites annonces de pédophiles. C'est un journal qui a contribué à normaliser la pédophilie et qui a permis à des pédophiles de se livrer à des actes pédophiles en ayant, si vous voulez, un organisme un peu officiel comme ça, financé par l'État, qui leur donnait la permission morale de le faire. C'est quand même ça, hein, Libération. Et il est parti chez Libé demander pardon. D'aimer son pays en disant voilà, bon, moi j'ai rien à voir avec l'extrême droite, donc sous-entendu l'extrême droite telle que la voit Libération, parce que les patriotes, nous ne sommes pas l'extrême droite, hein, nous sommes des Français, point final, qui aiment notre pays, point final. L'extrême droite, c'est Adolf Hitler, en fait. Bon, bref. Et donc, si vous voulez, le désaveu a été d'une violence inouïe, parce qu'en fait, les gens qui suivent Benoît Saint-Denis, c'est pas les Arabes, hein, même s'il y a beaucoup de Maghrébins qui aiment bien Benoît Saint-Denis, hein, c'est pas la question. Mais si vous voulez, le gros de son public, c'est pas les Noirs non plus qui vont préférer des champions qui leur ressemblent. C'était essentiellement les Européens, les Français, parce que il y avait. Mais c'est normal, c'est un truc de se voir dans Benoît Saint-Denis. Les mecs, moi j'ai pas ce côté. Moi, je vous le savez, je suis pas à fond sur la race. Je suis une anomalie parce que je sais que la plupart des gens sur Terre ont ce côté. de ne se voir, de ne pouvoir se projeter que dans un combattant qui leur ressemble racialement, qui leur ressemble physiquement. Moi, j'ai jamais eu ça. Moi, j'ai toujours adhéré à des combattants en fonction de leur façon d'être, en fonction de leur âme profonde et en fonction de est-ce qu'ils régalent ou pas. Moi, Zilei Zhang, si vous voulez, c'est un énorme chinois. Bon, mais le mec me régale, c'est un énorme tonton. Quand il fait des call-outs, ils sont polis parce que c'est un chinois. J'ai adoré King Kong Ortiz, le côté afro-cubain qui lâchait des punchlines sur Jésus-Christ. J'aime beaucoup comment il s'appelle. J'aimais beaucoup Duo Pas, qui était franco-français, mais pas parce que c'est un franco-français. J'aimais vachement Duo Pas parce que le courage qu'il a montré face à Wilder, le fait d'être venu au dernier moment, c'était vraiment un boxeur à l'ancienne et tout. C'est des mecs pour qui j'ai un respect monumental. Et il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont chinois. Zilei Zhang est chinois. C'est un citoyen chinois. Je dis pas chinois au sens asiatique, hein, c'est un chinois de Chine. Bon. Et si vous voulez, c'est des types. Ça pour moi c'est secondaire. Ce que je vois c'est à quel point leur mentalité de combattant elle est géniale, à quel point ils amènent un côté épique sur le ring, avec bien sûr une préférence là par contre pour le coup pour les catholiques ou en tout cas les chrétiens. Je ne me vois pas dans les combattants musulmans parce que tout simplement quand ils remercient Dieu, ils remercient Allah et Allah n'est pas mon Dieu. Mon Dieu c'est là, mon Dieu il est trois, c'est Jésus, le Saint-Esprit et le Père. Voilà, donc si vous voulez, je me projette moins dans les combattants musulmans, même si certains peuvent avoir ma sympathie. Vous avez des combattants musulmans qui sont pas, voilà, qui sont des types qui franchement sont parfois plus respectables que certains combattants. Enfin, par exemple, entre Conor McGregor au niveau du comportement et un Islam Makhachev. Bon, mais je préfère Islam Makhachev qui a plus de retenue, qui est beaucoup plus sobre. Conor McGregor, c'était vraiment infernal, quoi. Il y avait vraiment un côté outrancier qui était dégueulasse. Donc, si vous voulez, la religion ne fait pas tout. Mais quand je vois un mec qui a un bon esprit, qui met des cacahuètes à des noirs MTV. Qui sont francophones et qui derrière ont des discours Jésus-Christ de Nazareth devant un parterre devant un parterre de protestants américains, moi ça me régale. Bon, ça me régale. Donc si vous voulez, si vous voulez, quand t'es à la télé française, il y a Martin Bacolet en gros plan qui parle de Jésus-Christ, ben ça nous change un peu des noirs de banlieue. Qui sont en mode à la Wagbar, voilà. Donc, si vous voulez, je me sens plus proche de Martin Bacolet que de Doumbé, voilà. C'est tout, c'est comme ça. Si vous voulez, Doumbé, quand il parle, ça ne me transcende pas. Il est au service d'un camp qui n'est pas le mien. Et si vous voulez, dans l'affrontement final, ben Doumbé, il sera pas avec Martin Bacolet. Vous voyez, ils ont tous les deux la même couleur de peau. Il y en a un qui sera avec les chrétiens, l'autre qui sera avec les musulmans. Bon, donc si vous voulez, c'est comme ça. Vous avez des types, voilà. Donc moi, Benoît Saint-Denis, c'était pas la question de la race, c'était la question de ce qu'il représentait en termes de combattant, ce qu'il représentait en termes d'identité, donc y compris sa couleur de peau, mais pas que le fait que ce soit un mec qui parlait de chevalerie, qui parlait de catholicisme. Et il va chez Libé s'excuser de tout ça. Il va dans un journal qui a fait la promotion de la pédophilie se laver d'avoir pu être considéré comme étant potentiellement dans le même camp idéologique que Papacito. Vous comprenez le problème? Et la France, malheureusement, souffre de ça à 4000%. Le nombre de mecs qui me tapent dans le dos en me disant « Putain, j'adore ce que tu fais, mais je peux pas m'afficher avec toi. J'adore ce que tu fais, mais je peux pas m'afficher avec toi. » J'adore ce que tu dis, mais on ne peut pas apparaître ensemble à la caméra parce que ça va vexer une partie de ma clientèle. Donc en fait, l'extrême gauche, ben, elle a tous les pouvoirs parce qu'en fait, avec ce crédit qu'on lui donne, parce que là, il faut résister. Là, c'est le moment où il faut résister. C'est le moment où il faut être un chevalier. C'est le moment où il faut dire, ah, vous pensez que je suis un... Mais non, je vais vous montrer que, étape par étape, je vais vous montrer que... Voilà, je vais vous montrer que je suis pas un nazi, que vous dites de la merde, et en fait, vous continuez votre chemin, vous ne trahissez pas ce que vous êtes, et vous allez voir que Dieu va vous récompenser. Moi, j'ai été traité de nazi, je sais pas quoi. Ça ne m'a pas empêché de continuer mon travail et de rester toujours droit dans mes bottes et de tenir ma ligne. Ma ligne sur la question de la race, elle n'a jamais bougé. Elle n'a jamais bougé. De A à Z. Voilà. Malgré les articles, malgré le fait qu'on essaie de me faire passer pour un suprémaciste, je ne sais pas quoi, ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé. Donc, moi, je ne suis peut-être pas Benoît Saint-Denis. Je n'ai pas le courage de monter dans l'octogone à niveau professionnel. J'ai eu le courage de monter sur le ring à niveau amateur, mais j'ai sans doute pas le courage de monter sur l'octogone à niveau professionnel. Mais j'ai le courage d'affronter les journalistes de gauche. Voilà. Le Raptor a le courage d'affronter les journalistes de gauche. Le Raptor, tous les matins, il se lève, il y a un article qui explique que c'est un nazi pour empêcher son entreprise de se développer. Vous savez, à un moment, il voulait sponsoriser Comment il s'appelle? Christian Mbili. Christian Mbili, combattant chrétien, ancien militaire d'origine camerounaise. Christian Mbili a dit au Raptor, non, désolé, je ne peux pas m'afficher avec toi parce que ton Wikipédia, gna gna gna, voilà. Vous vous rendez compte de la violence? C'est-à-dire que le Raptor est venu avec des bourses conséquentes qu'on n'avait jamais proposées à Christian Mbili. Il est venu en lui disant, moi je suis prêt à investir, mais si vous voulez, on ne se rend pas compte. C'est pour ça que moi je pète des câbles et je le défends souvent. Quand il est attaqué par les rares connards qui font preuve de mauvaise foi, le Raptor, ça me fout ça me retourne le bide quand on s'en prend à lui, parce que si vous voulez, moi j'ai l'envers du décor, et je vois tout ce qu'il essaie de faire de manière gratuite et. Enfin, gratuite non, parce que c'est évidemment dans une démarche de promotion commerciale, mais justement, c'est comme ça que le monde tourne. Si vous voulez, il prend des risques énormes. Quand il va sponsoriser Baptiste Cheval, il avait très très peu d'abonnés. C'est un mec qui en est au début de sa carrière. On n'est pas à l'abri qu'il prenne un énorme KO et qu'en fait la hype elle redescende. Et pourtant, en général, les gens attendent que les combattants confirment et confirment encore. Et là, ils viennent pour les sponsoriser. D'accord? Baptiste Cheval a été sponsorisé par le Raptor très très tôt dans sa carrière. C'est une énorme prise de risque pour le Raptor d'associer sa marque à Baptiste Cheval qui est un aussi jeune boxeur. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a énormément de mérite à aller voir ces mecs-là, leur dire, écoute, je veux que tu sois l'ambassadeur de mes produits parce que tu portes quelque chose de beau. Et c'est pareil, il aurait pu aller voir des combattants qui étaient très hypés. À un moment, il a été approché par des Saladin Parnasse, hein, par des mecs comme ça, qui voulaient se faire sponsoriser par lui. Et en fait, il a refusé, alors que ça lui aurait amené de l'argent. Il l'a refusé parce que il voulait vraiment que sa marque soit portée par des boxeurs qui soient exemplaires, que les boxeurs aient des langages corrects, que ce soient des mecs qui donnent envie. Voilà. Et qui est pas des expressions. Donc il a refusé des types qui étaient des, il a refusé des types qui étaient des sommités, qui étaient des types qui leur auraient fait gagner beaucoup d'argent pour garder une espèce de ligne de conduite et ne sponsoriser absolument que des mecs qui portent vraiment intrinsèquement des valeurs très très délimitées, très spécifiques. Et ça lui réduit normalement le champ d'action. Et je vous dis, Christian Billy, il a approché Christian Billy, donc ancien militaire, chrétien, et Christian Billy lui a dit, désolé, désolé, tu es trop borderline. Donc si vous voulez, on est sans arrêt, nous. Moi, je veux faire, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de chercher un ring pour faire des vidéos de boxe, pour lever de l'argent pour les militaires. Je vous jure que tous les gens que je contacte me disent, c'est pas possible, t'es trop borderline. Voilà. Donc, en fait, les journalistes de gauche écrivent des articles. Eh ben, ils ont raison de le faire parce que il y a très très peu de Français qui ont les couilles de passer au-dessus de ça. Tout le monde est pétrifié par ce que va dire la gauche. Alors que la gauche, c'est quoi? En fait, ils ont les médias, donc vous avez l'impression que c'est 90% de la population. C'est 5% des Français, en fait. Si on compte les votants, qu'on compte tous les partis, les mecs d'extrême gauche régulièrement, les mecs d'extrême gauche type Libération, c'est à peine 5% des Français. D'accord? Et pourtant, ces mecs-là, les Benoît Saint-Denis et autres, vont aller se couper les couilles pour les offrir à des mecs comme ça, alors que c'est que 5%. Donc là, il y a un manque de clairvoyance, un manque de couilles qui est terrible. Surtout que derrière, les produits que Benoît Saint-Denis vend, là, les produits Kalos, il les vend à qui? Il les vend pas. Les patchs avec le drapeau français, c'est pas les Maghrébins qui les achètent. Les bagues d'ordre templier, d'ordre chevaleresque, c'est pas les musulmans qui les achètent, hein. D'accord? Voilà, parce qu'à un moment, on va dire les termes, les produits dérivés de Benoît Saint-Denis, c'est pas le public d'extrême gauche, c'est pas les mecs, c'est pas les mecs du Nouveau Front Populaire, c'est pas les insoumis qui achètent des chevalières Tancrède, des Bohémonds de Tarente en Terre Sainte, qui mettent des coups d'espade là, d'épée à des mamelouks pour libérer le tombeau du Christ. C'est pas l'extrême gauche, hein, qui adhère à cet imaginaire-là. Donc l'imaginaire que véhicule Benoît Saint-Denis, il s'adresse pas à Libération, il s'adresse pas aux Maghrébins musulmans, il s'adresse aux Français inspirés par la chevalerie de tradition ou de pratiques chrétiennes. Voilà. Donc si vous voulez aller chez Libé pour aller chier sur ces mecs-là, c'est infernal en fait. C'est du parjure. C'est du parjure. Moi, j'ai beaucoup beaucoup fait la promotion de Benoît Saint-Denis. Un matin, je me suis après sa victoire contre Frévola, quand la hype a commencé à venir, je suis allé le féliciter sur Instagram après son combat contre Frévola. Plus de réponse et il m'avait unfollow. Alors que j'ai été un des premiers, avec beaucoup d'autres, à le suivre. Vous savez que Benoît Saint-Denis avait été contacté à l'époque par Baptiste Marché, pour le mettre en valeur à l'époque où personne ne le connaissait. C'est les premiers qui sont allés vers lui, c'est les mecs comme Baptiste. Et ensuite, il va chez Libé pour dire que les mecs comme Baptiste, les mecs comme moi, les mecs comme le Raptor, il n'a rien à voir avec nous. Donc, si vous voulez, c'est vraiment. Et puis derrière, sponsor par Kalo, sponsor par le Raptor. Le Raptor a quand même eu beaucoup, beaucoup de mérite, hein, de passer outre ça. Il y a eu beaucoup de sagesse et de se dire, allez, les résultats en premier, la carrière en premier, il faut le soutenir quoi qu'il en coûte. Je pense que les articles chez. J'en ai pas parlé, très honnêtement, j'en ai pas parlé avec le Raptor de ça. Parce que c'était douloureux pour moi, donc je ne l'ai pas abordé avec lui et j'imaginais que c'était douloureux pour lui. Mais je pense que quand il est allé chez Libé dire oui, je suis pas, j'ai rien à voir avec ces mecs-là, je pense que pour le Raptor, ça a été très très dur. Je pense qu'il a avalé les couleuvres, il a dû se dire bon, allez, on passe outre on va de l'avant pour que Benoît Saint-Denis, parce que c'est quand même une figure qui, malgré tout, transmet des valeurs. On va passer outre et on va se raccrocher à ce qu'on aime de Mossoni. Moi, c'est ce que j'ai fait par la suite. Après sa victoire contre Frévola et même après sa défaite contre Dustin Poirier, moi, je me suis pas exprimé. J'ai continué à le soutenir parce que j'estime que je me suis pas exprimé publiquement jusqu'à aujourd'hui sur ce revirement de situation. J'ai rien dit. Je voulais pas, si vous voulez, jouer contre lui ou que ça impacte négativement sa carrière. Je me suis simplement tué. Vous remarquerez qu'après la victoire contre Frévola, je n'ai plus parlé de Benoît Saint-Denis. Parce qu'au lendemain de cette victoire, bon, il m'a unfollow, plus de réponses. Je n'ai rien dit parce que j'ai considéré que mon petit ego devait être mis de côté. Et que ce qui était important, c'est que ce que transporte Benoît Saint-Denis continue à être porté. Voilà. Bon. Et le karma étant. Enfin, le karma, moi, je ne suis pas hindouiste. Hein, Dieu étant ce qu'il est. Entre un Brésilien qui vient, qui dit j'encule Macron, la révolution de 1789 a pourri de votre pays, et un type qui va chez le journal pédophile Libération pour s'excuser d'être de droite, hein, bon, ben Dieu a fait gagner le mec qui dit que la révolution française c'est de la merde. Et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est juste. Et c'est bien fait. Parce que le discours qu'a tenu Moïcano. Le soir de l'UFC, d'ailleurs qui n'a pas été traduit par le speaker. Intéressant ça. Quand on commence à taper sur la République, là tout d'un coup, les mecs sont plus aussi bilingues que ça en anglais. Quand il est venu et qu'il a dit la révolution, mais c'est très spécifique ce qu'il a dit. C'est très très spécifique. Là, il est venu attaquer le cœur nucléaire du mal de notre pays. Le mal principal de notre pays, c'est pas les Noirs, c'est pas les Juifs, c'est pas les Arabes, c'est pas ce que vous voulez. C'est la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie sataniste mondialiste. C'est ça. Qui tue notre pays. Parce que de ça découle tout le reste. De ça découle la permission des Traorés d'être des merdes. De ça découle la permission des terroristes de rentrer dans notre pays et de faire n'importe quoi. De ça découle le laxisme judiciaire qui permet à l'OQTF marocain de violer Philippines et de la tuer ensuite. De ça découle toute la merde qui reste. De la franc-maçonnerie et de son satanisme intrinsèque découle aussi la cérémonie d'ouverture des JO qui était une ode au satanisme et qui était remplie d'ailleurs de références franc-maçonnes. Voilà. Donc, si vous voulez, le cœur nucléaire, c'est la franc-maçonnerie qui a été installée par coup d'État en 1789. Puisque nous vivons dans un régime régicide, je vous rappelle, quand une personne qui se réclame de la République vous dit oui, vous, les gens d'extrême droite, vous êtes violents, vous, les monarchistes, vous êtes violents, vous êtes des fascistes, rappelez-leur que la République s'est installée par un coup d'État régicide. On a tué le roi, on a fait un coup d'État par la force. Par la force. C'est ça, la République. Donc, si vous voulez, la France, le roi, notre bon roi Louis XVI, la paix soit sur lui, j'espère qu'il est aux côtés de Dieu, de l'autre côté, a dit, avant de se faire décapiter, j'espère que mon sang n'éclaboussera pas le peuple français. Ne retombera pas sur le peuple français. Je me rappelle plus exactement de ce qu'il a dit exactement, mais c'était, j'espère que le fait qu'on me coupe la tête, ne va pas vous plonger dans la France 2024. Bon, eh ben, on lui a coupé la tête, on est dans la France 2024. Donc, si vous voulez, l'autre, il se pointe, et là, il est venu, là, il y a eu du tchadisme, là. Là, Moïcano, il est venu, il a mis le doigt exactement là où il fallait pas le mettre pour les mondialistes. La révolution de 1789 a voulu chasser le Christ de votre pays. C'est une honte. Mais comment ne pas considérer que celui qui méritait de gagner a gagné? Et l'autre, il était déguisé en aubergine à la fin. En face. Il y en avait un, il avait le visage intact. Il y a eu Jésus-Christ, la révolution de 1789. L'autre, il était en mode sci-fit, il était en mode interview chez Libération, il était en mode je suis une aubergine, je fais un cosplay d'aubergine, je suis violet maintenant. Ma tête est une aubergine, faites une salade de fruits. Mettez-moi au four pendant une heure, on va faire de la moussaka. Voilà. Donc, si vous voulez, Dieu transforme des mecs en Mohicano, en prêtre du Christ, et il y en a d'autres, il les transforme en moussaka, en aubergine. Donc, si vous voulez, je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui ne croient pas en Dieu, mais au bout d'un moment, si vous voulez une preuve d'existence de Dieu, elle est là. Le chevalier a trahi. Donc, je fais venir un mec qui vient dénoncer exactement les entités qui ont poussé le chevalier à trahir. Le patron de Libé est un franc-maçon. Le patron de Libé est un franc-maçon. Le patron du journal dans lequel est allé Benoît Saint-Denis pour dire. Non mais attendez les Français les Français patriotes je les encule hein. Au fait et la gauche non mais les Français moi j'ai rien à voir avec eux hein. Les Français de droite j'ai rien à voir avec eux hein. Moi je suis le copain de la gauche hein. Mais Benoît Saint-Denis qui va te soutenir maintenant? Parce que c'est là où c'est génial. L'argent qu'a touché Judas c'est très très bien montré dans le film de Mel Gibson La Passion du Christ. Judas à la fin il a trébuché sur une charogne. Et il s'est retrouvé les mains dans une charogne. Et son argent est tombé par terre. Et il allait se pendre. Voilà, c'est ça qui arrive à Judas. Judas, il a fait un baiser à Jésus en lui disant pardonne-moi. Et il l'a livré aux Romains pour. Il a pris le Fils de Dieu et il l'a vendu pour quelques pièces de cuivre. Parce que ça ne devait même pas de l'argent. Il l'a vendu pour du cuivre. Voilà. Bon, et ben, en fait, cet argent était maudit. Il ne l'a jamais dépensé. Parce qu'à partir du moment où il a trahi, la malédiction est tombée sur lui. Et partout où il allait, il voyait des démons, il voyait des charognes. Il a fini par se pendre parce que c'était insupportable. Parce qu'il était en enfer. Il était déjà en enfer. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. L'argent que tu gagneras, ce qui te sera donné par le diable, parce que tu récuses Dieu, tu le paieras au centuple. Aujourd'hui, état des lieux, la carrière de Benoît Saint-Denis, je pense que là, ça va être très très compliqué parce que là, le prochain, il va falloir descendre de niveau parce que, attention, il a affronté des combattants de très très haut niveau. Hein. Faut pas non plus. Il a affronté des combattants. Il y a des mecs qui se targuent d'être imprenables parce qu'ils sont dans des ligues mineures. Hein, on n'en a rien à branler. Hein. Là, on est à l'UFC, donc il a pris un mec et attention, faut pas non plus. Il a pris un mec très 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 solide. Hein, très 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 solide. Hein. D'accord? Donc, faut pas non plus déconner. Mais ce que je veux dire, c'est que là, comment il va rebondir? C'est les mêmes Arabes qui l'insultaient sur Twitter là, qui vont soutenir Benoît Saint-Denis. C'est les mêmes musulmans qui disaient tu vas te faire détruire par Islam Akhachev. Et d'ailleurs a raison, je pense. C'est pas ceux-là qui vont le soutenir. Donc là, j'imagine qu'il va compter sur le public, le même public sur lequel il allait cracher dans Libé pour le soutenir. Allez Benoît pour la France, allez! Vous savez le patriote français, c'est un chien battu. Le patriote français, c'est un chien battu. Il revient, il prend des coups, il se fait trahir par le RN, par les médias, et il revient. Il revient inlassablement donner son amour. Donc, bon, finalement, il va s'en sortir, je pense, quand même. Il va s'en sortir. Parce que c'est comme ça. La droite française, elle est comme ça. Voilà. Donc, j'espère que vous allez acheter des chevalières avec des ordres templiers dessus, parce que là, il va falloir qu'il y ait des choix qui soient faits de professionnalisation extrême. Là, faut virer les mecs qui te font les PAO, là, qui s'appellent Régis, qui bossent à la mairie de Bayonne. Va falloir se dégager de ce club-là de 8e zone et aller un petit peu se professionnaliser. Voilà. Je pense qu'il est très, très mal entouré. Je pense qu'il est très, très mal entouré. Donc, la leçon de tout ça, c'est que le parjure ne paye jamais. Et tôt ou tard, le diable vient taper à la porte. Vous vous rendez compte? Dégager son entraîneur pour quelques ducats, chier sur son public pour un petit peu de considération et pour sortir d'une sauce que moi et le Raptor et d'autres, on affronte tous les jours depuis 10 ans. Des mecs qui expliquent que je suis un nazi, mais ça fait des années. Des mecs qui expliquent que le Raptor est un nazi, mais ça fait des années. Est-ce qu'il allait demander pardon? Est-ce qu'il a fait amende honorable, je sais pas quoi, chez la gauche, le Raptor, pour aller dire Oh non, vous avez raison, allez, je leur parle plus aux nazis, c'est bon, je suis officiel. On n'a jamais fait ça. Et pourtant, on n'est pas force spéciale. Donc, c'est toute la limite aussi de la virilité physique, c'est que si elle n'est pas accompagnée de virilité mentale, eh ben, en fait, le rêve s'effondre. La chevalerie, il aurait dû mieux bosser le sujet, Benoît Saint-Denis, parce que la chevalerie, c'est Roland. C'est faire des charges contre les Vascons, et les comment ça s'appelle, les Zénètes, dans les Pyrénées, au cirque de Gavarnie. Mais c'est aussi la fidélité au roi, c'est aussi mettre des coups de cor. Tu es entouré par les ennemis, tu continues à faire sonner non pas le cor du Gondor, mais le cor franc. Pour que ton roi Charlemagne vienne à ta rescousse. C'est ça qui fait Roland, le fondateur de la chevalerie, le fondateur de l'esprit chevaleresque, Roland. C'est ça qui fait. Il est entouré d'ennemis, donc en l'occurrence de Basques et d'Arabes coalisés. Et donc il y a du boum au milieu des Pyrénées. Le mec, il se fait péter la jugulaire. C'est ça l'histoire de Roland. Il est entouré d'ennemis et il se dit, putain, je peux pas laisser mon roi ne pas savoir que l'arrière-garde est en train de se faire décimer. Donc là, il s'oublie, il a beau avoir la gorge ouverte, il y a un coup de cor là, tu vois. Mais c'est épique, c'est épique. Ça, c'est chevaleresque. T'as la gorge tranchée, t'es entouré de Kaïra en scooter du Moyen-Âge, de Zénètes, de cavaliers Zénètes du fin fond du Maroc, qui font des fantasias tous les week-ends, et tu mets quand même un coup de cor. Est-ce qu'il est allé chez Libé dire pardon, j'aurais pas dû me mettre dans l'armée des Francs, est-ce que je peux réciter la Shahada et devenir votre pote? Est-ce qu'il a fait ça? Non, jusqu'à la fin, c'est resté un chevalier au service de son roi et au service de son royaume des Francs. Parce qu'il faut imaginer la montagne pyrénéenne, mais c'est épique. C'est épique! Et c'est ça dont on a besoin. Et le problème, c'est que plus personne ne sait sonner dans le corps. Plus personne ne sait sonner dans un corps. Plus personne ne sait faire les trucs que faisait Roland. Plus personne n'est capable de dire, j'ai une flèche dans la gargante, je continue à faire sonner le cor de la chevalerie française. Je serai le dernier à crever en continuant à sonner le cor. Plus personne n'est capable de faire ça. C'est pour ça qu'on vit dans un pays de merde, rempli de lâches, rempli de lâches. Voilà pourquoi on vit dans un pays de merde comme ça. Parce qu'il n'y a pas de Mohicano. Mohicano, c'est pas un chevalier. Mohicano, il arrive, hein. J'encule Macron. Point numéro 1. Point numéro 2, le Christ. Point numéro 3, votre révolution et votre république. Je l'encule. Voilà, Benoît, ce qu'il fallait que tu dises. Voilà. Voilà ce qu'il fallait qu'il sorte de tes cordes vocales. Fallait pas aller faire une interview chez les pédophiles de Libé. Vous me rendez malade! Vous me rendez malade tous! Putain! Le projet français, c'est un mec entouré par ses ennemis, il est désarçonné, il a fait je sais pas de guerre contre les lourds Celtes. Il est envoyé à Saragosse par Charlemagne pour aller raser Saragosse là. Il revient, il est attaqué non seulement par les Basques, hein, mais en plus par les Arabes, parce que c'est ça l'histoire de Roland. Le mec, il est à terre, il a la gorge trancée. Il continue à sonner pour la France! Il fait pas le PD! Il se parjure pas! Pourquoi il y en a un sur 10 000 comme ça? Pourquoi il y en a un sur 1 million comme ça? Toute la journée en train de parler de révolution, de croisade, gna gna gna, et à la fin, ça va faire teshuva chez Libé! Putain. Moi, je vous jure, hein, j'y suis allé au cirque de Gavarnie. Hein. Là où Roland est mort, ça fait quelque chose. Tu vois cette espèce de vallée rocailleuse. Tu vois cette espèce de vallée rocailleuse. Tu imagines les cavaliers francs avec les cavaliers zénètes qui étaient. Les cavaliers zénètes à l'époque, les cavaliers qui venaient du Maroc, la cavalerie berbère du Maroc, c'était une des unités militaires les plus puissantes du monde. L'armée franque se fait décimer. Roland tombe de son cheval, il est blessé à la gorge. Il prend son épée dans une main parce qu'il y a quand même des restes de paganisme, donc le mec veut mourir à l'épée à la main, quand même. Et de l'autre, il y a la loyauté. C'est les deux dernières choses que fait Roland. Prendre son épée pour la combativité, sonner le cor pour la loyauté. Il n'y a plus de loyauté dans le royaume de France. Parce qu'il n'y a plus de Charlemagne et qu'il n'y a plus de Roland. À la place, il y a des journalistes de Libé. avec des physiques de merde, hein, qui convoque des types pour Benoît Saint-Denis pour qu'ils se mettent à genoux. Voilà pourquoi on vit dans un pays de merde. Parce que c'est rempli de lâches et de collabos. Et après, il va faire des featuring avec... il va faire des featuring avec Seth Gecko. Seth Gecko, donc ça c'est Baptiste qui l'avait rappelé dans sa vidéo. Seth Gecko qui a validé les Antifa, qui a fait un clip pour dire que c'était un Antifa. Et toi, Benoît Saint-Denis, tu vas chez Libé, puis tu vas faire un clip avec... donc c'est bon. Donc en fait... comment il s'appelle, Seth Gecko, ça va. Seth Gecko, converti à l'islam, Antifa, lui, ça va, c'est pas la honte, tu peux t'afficher avec lui, c'est bon. Et par contre, moi, il y a des follow sur Instagram parce que tu m'assumes pas. Et regarde où tu es aujourd'hui. Regarde où il t'a mis, Dieu. Il t'a mis avec qui? Il va t'appeler maintenant, Seth Gecko, maintenant que l'hype, elle est passée? Qui c'est qui vient récupérer les gens quand ils ont été suppliciés? Les chrétiens, Benoît, les chrétiens. C'est ça notre religion. Le Christ, une fois qu'il a été crucifié, qui c'est qui vient le décrocher? Ses proches, sa famille, les gens qui croyaient en lui. C'est ni les pharisiens qui l'ont condamné, ni les romains qui l'ont crucifié qui sont venus le chercher. C'était ses fidèles. Les gens qui lui étaient fidèles, sa famille. Qui c'est ta famille maintenant? Qui c'est qui va venir te donner de la force? Les Arabes de France, hein, qui sont tous derrière Doumbé? Les gauchos? C'est les gauchos qui vont venir te hyper maintenant? Et te mettre bien? Ou tu comptes sur le pardon chrétien? Des mecs comme moi? Ou des mecs comme... y en a des milliers qui t'ont fait confiance dans le public? Voilà. Votre mission, c'est d'avoir une épée dans une main et le corps de la loyauté dans l'autre. Il ne faut lâcher aucun des deux. Je veux que vous pensiez à ça. Il ne faut lâcher aucun des deux. Ni le Christ, ni l'épée pour le défendre. Qu'on vous propose de l'argent, qu'on vous propose de l'avancement, ne divorcez jamais des grands principes que nous a enseigné le Christ. Et la chevalerie, qui est complètement corrélée au Christ, d'ailleurs. Et n'acquiescez pas dans un coin pour ensuite faire les salopes, parce que j'en connais plein qui me disent « Ah, j'ai adoré ça dans ton podcast », et dans les actes, il n'y a rien. Les pensées ne valent que si elles se traduisent en actes. La monnaie de la pensée, elle n'a pas cours. C'est la monnaie des actes qui pèse dans le quotidien. Donc dépensez cette monnaie-là. Ne lâchez aucun des deux. Ni le corps de la loyauté, ni l'épée. Les amis, c'est la fin de ce podcast. L'important, c'est que des vérités aient été dites, et Moïcano les a dites, donc bravo Moïcano. Bravo d'être venu en France, d'avoir dit ce que les Français n'entendent pas assez, parce que les mecs comme moi sont cancel, y compris par les gens de son propre camp. Donc merci Moïcano, tu as mérité la victoire. Tu es un disciple du Christ, et étant disciple du Christ, tu connaîtras certes la défaite, parce qu'on est dans un monde d'incarnation, donc on ne peut pas connaître la gloire absolue telle qu'elle nous sera donnée au paradis, mais tu connaîtras beaucoup de victoires tant que tu resteras fidèle au Christ. Voilà. Et je professe ici, disciple du Christ fera de très très grandes choses, parce qu'il n'a pas fait teshuva. Si vous voulez soutenir mon travail, mes livres sont édités dans la maison d'édition Magnus, ainsi qu'un livre que j'ai coécrit avec Julien Rochdy aux éditions Eteri. Il y a également mes BD qui sont disponibles toujours chez mon éditeur Magnus, magnus.fr. Ma BD Dino Mitralège que je vous avais promis il y a de ça un peu plus d'un an, un an et un mois, eh ben, elle est prête, elle sort. Dans 2 semaines, je crois, elle sort dans 2 semaines. Donc, chose promise, chose due. Vous aurez bientôt Dino Brutalage entre les mains. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous procurer Dino Brutalage quand ce sera le moment de se le procurer parce qu'il n'est pas encore sorti. Je crois qu'il n'y a même pas encore de précommande. Et, ou alors, vous procurez, si vous ne les avez pas lus, mes anciens ouvrages. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Par-dessus tout, je vous demande de rester loyal au Christ et aux grands idéaux de la chevalerie française parce que c'est ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Désolé de vous avoir crié dans les oreilles, mais il y a des thèmes avec lesquels je ne peux pas faire de l'humour. Je vous embrasse, restez des chevaliers et que retentisse le plus possible le corps de Roland dans les vallées pyrénéennes. À très bientôt.